les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
On dit que cette série est une digne descendante de Twin Peaks, on a aussi dit qu'elle était rebutante. Ni les thèmes, ni l'image, ni le rythme ne sont faciles a priori, l'audience n'a pas explosé les scores. Mais Carnivalé, appelé par certaines chaînes francophones la caravane de l'étrange, a remporté 5 Emmy Awards le 14 septembre dernier. Elle était nominée dans 7 catégories. Entrons dans le nouvel âge du magique en compagnie de Sarah, bonjour.
Bonjour Alex, autant dire qu'on s'attaque à un gros morceau aujourd'hui. Alors un gros morceau tout d'abord parce qu'il me semble intéressant de décrire un petit peu cette série vu que je pense que pas grand monde la connaît. C'est pas une série qui est passée sur TF1 le dimanche après-midi par exemple. L'intrigue commence en plein désert d'Oklahoma durant la Grande Dépression américaine. Une dame vient de mourir et son fils apparemment tente de lui creuser une tombe, mais un bulldozer apparaît de nulle part et veut tout raser parce que le conducteur prétend que la terre appartient maintenant à la société du commerce. Une autre irruption va sauver un petit peu le jeune homme de cette situation un peu difficile, c'est celle d'un cirque. Le meneur du cirque négocie un peu de temps avec le conducteur du bulldozer et ils aident le gamin à enterrer sa mère. Ensuite, le bulldozer se met à tout casser et lui part avec les forains. Alors le tout se passe dans une économie langagière assez désarçonnante puisque pratiquement aucune parole ne sera échangée, quelques-unes, mais juste pour dire. Et là déjà, on se dit « Oups, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ?» Il y a aussi pas mal de questions qui se pressent déjà au portillon, puisque le jeune homme, on l'apprend assez vite, s'appelle Ben Hawkins. Il porte des chaînes aux pieds et donc on peut déjà se demander qui il est, d'où il s'est échappé, s'il s'est échappé, pourquoi la femme ne voulait pas qu'il la touche, puisque c'est ce qui arrive. Plein de mystères donc qui se regroupent autour de ce jeune homme, mais des mystères qui vont paraître assez fades par rapport à son compagnon de voyage. Je vous l'ai dit, c'est un cirque qui le prend en charge, mais un cirque peuplé de freaks, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de monstres.
Un phénomène de foire.
Phénomène de foire, tout à fait. Et on a le phénomène de foire typique, la femme à barbe, mais on a aussi, par exemple, un homme lézard ou un sorcier aveugle, des sorciers à moise, des pin-ups, etc. Le tout est dirigé par un nain subordonné à un patron qu'on ne verra jamais.
Pour l'instant.
En tout cas, pour l'instant, effectivement. Mais il faut savoir que Ben n'est pas si fade que ça, parce que lui, par le contact, il est capable de rendre vie à des animaux, de rendre vie à des membres qui étaient paralysés, bref, de ressusciter. Et on peut imaginer évidemment que cette figure christique se doit d'être opposée à un diable. Et le diable, et c'est ça l'intérêt ici, revêt l'habit d'église, puisque c'est le révérend Justin Crowe. Le lien entre les deux histoires est entretenu par des rêves identiques que font Ben et Justin, et qu'ils ne comprennent au départ ni l'un ni l'autre. Justin a, lui, un grand idéal de l'action catholique. Il veut, par exemple, construire une église pour les pauvres qui, à l'époque, parcourent les rues, puisque je vous rappelle, on est durant la Dépression. Mais il se fait beaucoup, beaucoup d'ennemis et tout ça se termine par un incendie. Je vous dis, il a un grand idéal catholique, mais c'est aussi un peu extrémiste, quelque part. Il y a quelque chose qui nous embête un petit peu dans sa manière d'être catholique.
Le passage entre les deux personnages est parfois un peu ténu.
Et parfois, on se demande si on est vraiment passé de l'un à l'autre. On peut parfois passer de rêve du premier au rêve du second. C'est une série pas facile, hein.
Dès le départ, ce qui est étrange, c'est que quand on voit tel personnage ou tel autre, donc c'est-à-dire le prêtre ou Ben Hawkins, on se dit, mais est-ce que je suis bien dans la même série ou est-ce que je regarde un show complètement différent?
Ah oui, t'as eu ça, toi. Moi, par exemple, au début, j'avais... Là, je suis où? Je suis en Californie avec le révérend ou je suis avec Ben? Je ne savais pas très bien. J'avais l'impression que c'était très, très mêlé et je ne voyais pas très bien les différences.
Les repères sont un peu complexes.
Ouais. Mais je pense que c'est le but aussi de cette série, c'est de ne pas nous donner les repères tout de suite.
Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que cette série, au départ, n'était pas prévue pour être une série récurrente, mais une mini-série.
Oui, on en parlera peut-être tout à l'heure, tiens, d'ailleurs, de ça. Je vous ai dit que Ben avait des dons un peu paranormaux. C'est le cas aussi de Justin qui possède ses propres dons. Il peut manipuler l'esprit des gens parce qu'il dicte à distance son propre bouquin en psychiatre qui est censé l'aider et de façon beaucoup plus malsaine vraiment que Ben. Mais donc ça veut dire qu'on a là deux personnages totalement opposés. Il faut savoir aussi que rien n'est simple dans Carnivalé. Là je vous propose une vision un peu blanc et noir, mais Ben est un assassin. Or, est-ce qu'un assassin peut être l'incarnation d'un nouveau messie? J'en suis pas certaine. Et puis, d'ailleurs, Sophie lui lit les cartes, la carte ancienne, et lui dit qu'il est marqué par la bête. Donc, on voit que c'est aussi un personnage ambigu.
On se rend compte finalement que quand il redonne la vie à quelqu'un, il est obligé de la prendre à quelqu'un d'autre, ou à des plantes, ou à des animaux.
En fait, quand il fait le bien, il doit faire le mal, effectivement. Et alors, le créateur a dit dans une interview, est-ce qu'on considère que son acte de ressusciter quelqu'un, c'est le bien, et que donc le reste, ce sont des dommages collatéraux, ou est-ce qu'on considère qu'effectivement, les dommages collatéraux sont importants, et ce qui est mauvais, c'est le fait qu'il ait ressuscité quelqu'un? C'est une question qui est intéressante, à laquelle ils ne répondent pas d'ailleurs. Il faut savoir aussi que Justin, lui, n'est pas tout à fait le mal incarné non plus, parce qu'effectivement, ces décisions partent de choses qui partent du bien au départ. Autour de ces personnages, il y en a plein d'autres. D'abord le cirque, on apprend que Ben était attendu dans ce cirque. Il va y côtoyer des gens tous différents les uns que les autres. Déjà Samson, qui est donc une personne de petite taille, mais on sent qu'il est beaucoup plus grand par son esprit. On ne sait pas très bien ce que ça va devenir. On sent que c'est un sage, par exemple, quelqu'un qui est plutôt de l'ordre du passeur, etc. Et le patron invisible, on peut se poser plein de questions sur les rapports entre ces deux-là. Il y a aussi, par exemple, les amours de Jonesy qui ne sont pas évidentes. Il y a le personnage de Sophie qui est sympathique au départ, mais qui a quelque chose d'un peu inquiétant, à tel point que sa mère décide de tenter de la tuer. Y réussit-elle? On n'en sait rien. Il y a Lodz, il y a Lila, il y a Ruft, il y a Gabrielle, les effeuilleuses. Ce sont tous des personnages fantastiques. Mais retenez une chose quand vous allez aborder Carnivalet, c'est qu'ils ont tous un destin très très difficile. Alors, qui a fait ça? Il s'appelle Daniel Knauf. Alors, au départ, il a été diplômé en anglais de l'Université de Californie, pour la petite histoire. C'était un simple employé qui écrivait sur le côté. Et puis, un jour, HBO produit un film qu'il a écrit, un scénario de film, pardon, qu'il a écrit, Canaan's Way. Et c'est un western où le héros est aveugle. Donc, on est déjà dans quelque chose d'un peu bizarre. Il a ensuite développé plusieurs projets pour différentes maisons de production. Et en 2001, il s'est tourné vers la télévision. Il a écrit plusieurs pilotes, dont celui de Carnivalet, La caravane de l'étrange, qui sera directement produit par HBO. Donc c'est normal si vous n'avez pas encore beaucoup entendu parler de lui. Il était assisté par Ron Moore, qui est peut-être le plus connu dans toute cette production, puisqu'il a vendu son premier scénario pour Star Trek The Next Generation en 1989. Avant d'être promu d'ailleurs producteur de cette série, il en a écrit l'épisode final qui a été récompensé par un Hugo Award, c'est-à-dire une récompense qui récompense d'ailleurs les œuvres de science-fiction. Et l'équipe comprend aussi Howard Klein, qui avait déjà beaucoup bossé pour HBO. Donc il n'y a pas franchement de grosses vedettes au niveau de l'équipe de production. Il n'y en a pas non plus au niveau du casting, puisqu'on a des gens pas trop connus. Alors d'abord Nick Stahl, à mon avis, lui, vous le connaissez plus sous le rôle de John Connors dans Terminator 3. Mais il avait aussi joué avant dans La ligne rouge de Terrence Malick aux côtés de Sean Penn, le Vénard, et de George Clooney. Clancy Brown, qui joue Justin Crow, lui, il est connu peut-être par les amateurs de Highlander, puisqu'il était le vilain Kurgan dans le film. Il a aussi joué dans Earth 2 sur NBC, donc vous voyez cette série qui se passe sur une terre parallèle à la Terre, qui lui ressemble très fort, mais habitée par des gens bizarres aussi. Et il jouait le père célibataire, John Denzinger, il a aussi joué dans Les Évadés. Celle qui a eu la plus longue carrière probablement avant cette série, c'est Adrienne Barbeau. Faut savoir qu'elle a commencé en 1963 dans The San Jose Civic Light Opera. Ça me dit rien du tout et je suppose que vous non plus. Mais comme ça, vous voyez qu'elle n'est pas toute jeune non plus. Celle qui a créé le rôle de Rizzo dans la version musical de Grease à Broadway. Donc, elle a joué aussi dans la série Maud. Alors, on ne connaît pas en Europe, mais c'est une série familiale, mais très subversive, qui est la première à avoir parlé, par exemple, d'avortement aux États-Unis dans un moment où c'était encore un péché mortel, même en Europe. Donc, c'est vous dire.
Et c'était d'ailleurs la série qui a servi de modèle à la Maggie française, mais qui a complètement changé de cap par la suite.
Adrienne Barbeau, c'est une actrice que tu aimes beaucoup.
Oui,
toi.
C'est une grande reine de la série B. Ça a été un temps l'épouse du réalisateur John Carpenter. Elle a d'ailleurs joué dans nombreux de ses films. Elle a été une reine des hurleuses, puisqu'on les appelle ainsi, dans Fog notamment, ou dans Creepshow.
Je ne pensais pas que les charmeuses de serpents gagnent si bien leur vie. Je trouve ça bizarre que les gens aient envie de voir ça.
Les hommes adorent voir un serpent entre les mains d'une femme. Il n'y a rien de tel pour les exciter. Ça doit être à cause d'Ève et du serpent. Le jardin d'Éden, tu vois ce que je veux dire?
Oui, les Corinthiens, Ézéchiel, les évangiles, Matthieu, Luc. Je sais, ma mère m'en lisait des passages tous les jours.
C'est vrai? J'ai une Bible. Je peux te la prêter si tu veux la relire.
Non. Je crois que j'ai eu ma dose pour toute ma vie.
Sois prudent. On cherche soit une couleuvre à collier, soit une couleuvre léopard. Mais leur apparence, c'est parfois trompeuse. Je m'y suis laissé prendre un jour à Fort Worth. Je croyais avoir affaire à une simple couleuvre. et j'ai saisi une vipère à pleine main. Elle m'a immédiatement mordu. J'ai failli en mourir.
Wow.
C'est Axe Keder qui m'a secouru.
Vraiment?
Oui, je t'assure. J'ai eu la fièvre toute la nuit, il est resté là, une main sur mon visage. T'as déjà eu cette drôle d'expression. T'aimes pas qu'on te touche.
Je n'ai pas été habituée à ça dans ma famille.
Comme c'est dommage.
Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de vedettes, mais ceci n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a quand même des vedettes du petit écran. Alors je commence par celle qui est probablement la moins connue vraiment, mais qui est probablement dans votre esprit, dans votre subconscient de téléspectateur, c'est Debra Christopherson qui joue la femme à barbe. En fait, elle a été Jerry Turner, la réceptionniste de New York Police d'État. Donc des gens comme moi la connaissent, par exemple. Elle a aussi eu des rôles dans Murder One, dans Chicago Hope, Dharma and Greg, X-Files, Ally McBeal. Donc c'est quelqu'un d'assez, dont le visage en tout cas est connu.
Mais c'est vrai que la barbe...
la change, effectivement. On a évidemment Michael G. Anderson, la personne de petite taille, Sanson. Automatiquement, là, je suis sûre que tous les grands fans de série l'ont reconnu, puisqu'il jouait dans Twin Peaks de David Lynch, qui n'est quand même pas n'importe quoi. Il a aussi joué dans Mulholland Drive, dans Twin Peaks le film, dans X-Files, dans La Ville du Grand Secret, ou dans Star Trek Deep Space Nine. Donc là aussi, il a une grande, grande carrière à la télévision. Et puis, évidemment, Patrick Beauchaud.
Le Belge de service.
Voilà, la grande fierté de la Belgique, on en a au moins une, qui est mondialement connu depuis son rôle de Sydney, évidemment, dans Le Caméléon. Il a aussi joué l'ex-mari de Jodie Foster dans Panic Room, vous voyez le thriller qui était sorti il y a quelques années. Pour la petite histoire, il paraît qu'il parle 5 langues et qu'il se débrouille dans 2 autres. Donc on peut être belge et brillant.
Tout à fait. Et alors qu'il n'a pas un rôle tout à fait gentil comme on a l'habitude de le voir dans Le Caméléon.
Ah,
c'est
non,
pas
non,
le gentil Sydney.
Il n'est pas gentil, il n'a pas un rôle facile. On se demande pendant tout un temps, finalement, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est méchant, comme tous les personnages dans cette série. Malheureusement pour lui, j'ai l'impression que son rôle est un peu court-circuité et qu'il ne reviendra pas à la seconde saison, mais je ne vais pas vous en dire plus, vous verrez par vous-même. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le fait qu'on n'ait pas quelqu'un comme Shannon Doherty, par exemple, ou Noah Wiley dans le casting, c'est finalement mieux, puisqu'on garde cette galerie de personnages qui s'équilibre totalement. Et on n'a pas envie de regarder plus une personne qu'une autre, puisque finalement, Patrick Beauchaud, qui doit être le plus célèbre au niveau populaire, etc., n'a pas un rôle auquel on a envie de s'attarder très très fort au départ. Donc ça équilibre tout ça et c'est pas plus mal.
On l'a vu, Carnivalet est une série assez spéciale, assez originale, et certains la comparent d'ailleurs à Twin Peaks.
Certains ont même dit qu'elle était la Twin Peaks des années 2000, c'est vous dire. Et c'est vrai que la série remue des thèmes très proches de ceux de Twin Peaks, le bien, le mal, la religion, le péché, la rédemption, mais aussi tout ce qui est secret, non-dit, etc. Donc c'est vrai que ça peut se comprendre. Elle se déroule dans un microcosme très particulier, les forains, et relativement fermé. Mais comme Twin Peaks se déroulait non pas dans une grande ville, mais dans une petite ville, très à l'écart, avec de la neige, etc. Les personnages dans Carnivalet sortent aussi du commun, d'abord parce qu'ils sont des monstres, ça je pense qu'il n'y a plus besoin de revenir là-dessus, mais parce qu'ils sont aussi marqués par le destin, et ça se voit surtout entre Justin et Ben, mais je pense qu'il y en a d'autres, parce qu'ils ont aussi une part de mystère. Et là, il n'y a qu'à citer le patron, on ne sait pas qui c'est, il est invisible pour certains, peut-être pas tous. Donc là,
c'est un peu le Charlie de Carnivalet.
Sauf qu'il a pas, il a une cigarette et pas un... Comment ça s'appelait ce truc? Un transistor ou je ne sais pas quoi?
Un haut-parleur.
Et ouais.
Une armada de jolies jeunes filles en maillot.
Alors, comme Twin Peaks, cette série a une identité formelle très très forte. La lumière, la photographie sont absolument incroyables. Les décors qui participent très très fort à la différenciation de cette série. Le spectateur aura peut-être été surpris par le peu de dialogue qu'il y a dans les premières minutes de la série et ça s'arrange pas après. On nous en dit le moins possible et tout ça donne effectivement une teinte un peu à la Twin Peaks. Sauf que, à mon avis, Twin Peaks était une série post-moderne dans le sens où elle mélangeait tous les genres qu'on avait connus avant. Elle mélangeait les codes, elle jouait avec le soap opera, avec le policier, etc., etc. Carnivalet, elle ne brouille pas les genres. Et même Twin Peaks, qui apparaît comme un fameux bordel, il faut bien le dire, l'imagination des auteurs part dans tous les sens à tel point qu'à un moment on se dit qu'ils se sont perdus eux-mêmes. Ça n'est pas du tout le cas pour Carnivalet, dont on sent qu'elle se déroule vers une fin inéluctable et qu'on sait très bien vers où on va. En tout cas, peut-être pas nous, mais les créateurs. Par contre, c'est un peu difficile de la classer dans le fantastique, parce que j'ai lu ça aussi de temps en temps, que c'était une série fantastique. Il faut savoir que pour que ça reste fantastique, il faut que l'événement inexpliqué reste inexpliqué, ne devienne pas rationnel, par exemple. Et ici, finalement, personne ne s'inquiète des pouvoirs, personne ne s'inquiète de la cartomancienne, du fait qu'il y ait des gens qui communiquent par télépathie, etc. Et finalement, ce combat qui se dessine entre le bien et le mal est assumé par tout le monde. Donc, à mon avis, on est plutôt dans quelque chose qui ressemble au Seigneur des Anneaux, cette espèce de combat entre le bien et le mal, des êtres qui sortent de l'ordinaire, certains éléments magiques. Alors, dans le Seigneur des Anneaux, c'est plutôt de la féerie, par exemple. Ici, ça serait plutôt du magique ésotérique, par exemple, dans Carnivalet. Et donc, moi, il me semble qu'on est bien dans de l'héroïque fantasy, dans un genre très marqué, et pas dans quelque chose de post-moderne comme Twin Peaks, même si, effectivement, comme c'est bizarre, on ne peut que faire le lien. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Selon certains, les téléspectateurs n'auraient pas été enthousiasmés, au contraire, auraient quitté un peu les audiences. Et c'est vrai que la série n'évite pas certaines longueurs. Elle peut même paraître un peu laborieux sur le début. Tu l'as dit tout à l'heure, on ne sait pas toujours faire le lien entre Justin et Ben. Qu'est-ce qui vient foutre là? On aurait même plutôt envie de rester rien que dans le cirque. Et donc on se demande un peu où on va. Parfois même j'ai l'impression que finalement ça n'est qu'une longue introduction et qu'on attend encore qu'il arrive quelque chose. Donc heureusement finalement que ça n'est pas resté une mini-série et qu'il y aura une saison 2 qui va pouvoir expliquer un peu ce qui se passe.
Vous êtes celui qui le connaissait le mieux. J'aime beaucoup écouter la radio, monsieur Dalal, mais je n'ai aucune envie d'y entendre ma voix. Il ne s'agit pas de vous mettre derrière un micro, révérend. Ici, c'est de vous à moi. Vous les avez recueillis. Justin et Harry, c'est vous qui les avez élevés.
Comme si c'était mes enfants.
Ils ont de la chance. Quand Justin était plus jeune, donnait-il déjà des signes de sa vocation de guide spirituel?
J'ai toujours su que sa foi était immense.
Savez-vous où il était ces dernières semaines?
Je suis content qu'il soit revenu, c'est le principal.
Et si je vous disais qu'il était dans un asile? Un asile psychiatrique.
C'est lui qui vous l'a dit?
Non, mais je suis reporter, révérend.
Dans ce cas, monsieur Dolan, je n'ai rien à faire avec vous.
Croyez-vous qu'il faut l'aider? Enfin, croyez-vous qu'il y a un problème?
S'il y en a un, c'est l'Église qui se chargera de le régler.
Pas si les autorités font une enquête. Je suis tombé sur un rapport de police. Une auto comme celle de Justin a été vue à côté de la mission peu avant l'incendie.
Enfin, c'était son Église, non? Peut-être qu'il y était en train de travailler.
À 11h le soir. Il se passe quelque chose d'étrange, révérend. J'étais là la semaine dernière, j'ai vu l'attitude des paroissiens vis-à-vis de lui. Et ce baptême ne ressemblait à aucun de ceux que j'ai connus. Vous aussi, vous avez vu quelque chose.
Au revoir, monsieur Nolan.
De quoi avez-vous peur?
La caravane de l'étrange, saison 2, qu'est-ce que ça donne, Sarah?
J'ai pas envie de répondre à ta question tout de suite, j'ai envie de laisser un peu le suspense s'établir. Bon, première chose à dire, c'est que entre les deux saisons, il y a 5 Emmy Awards qui sont arrivés. Donc quand elle débarque aux États-Unis sur HBO, c'est un phénomène qui arrive. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que Daniel Knopf a dû s'expliquer entre les deux saisons, parce que les gens n'avaient pas très bien compris qui était le gentil et qui était le méchant, ce qui est un peu hallucinant quand on connaît bien la série. Il se rendait compte que plein de gens n'avaient pas compris les passages clés, comme par exemple quand Justin est avec Eleanor et qu'elle vomit des pièces, qui est assez brutal, et quand Ben soigne Maddie de manière tout à fait douce, bon, ça donne déjà un élément, ça c'est dans les deux premiers épisodes. Ce qui est drôle, c'est que les gens n'ont pas du tout perçu ça. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnages bons font parfois des choses mauvaises, ils font des erreurs, et que Justin, le personnage mauvais, fait lui des choses bien, parce qu'a priori c'est un homme de Dieu, un homme d'église, et qu'il a vraiment envie d'être quelqu'un de gentil. Donc ça brouille un peu les pistes, et ça je trouvais que c'était déjà intéressant. Il a aussi dit qu'il trouvait que sur la première saison, les gens étaient allés trop loin dans les interprétations, et c'est vrai que depuis Twin Peaks, on essaye peut-être de trouver des explications au moindre plan, c'est pas toujours évident. Bon, donc, deuxième saison, on retrouve Ben et Justin exactement au même moment où on les a quittés. Je vais pas vous dire lequel, comme ça ceux qui n'ont rien vu auront la surprise. Et évidemment, cette deuxième saison doit les mener à la confrontation. Pour ça, Ben doit retrouver Scudder, son père, et doit acquérir les auxiliaires qui vont lui permettre d'affronter Justin. Ce qui est surtout intéressant dans cette seconde saison, c'est qu'on approfondit les deux figures, mais aussi les relations qu'ils entretiennent entre eux, des relations qu'ils entretiennent avec les autres personnages principaux. On comprend mieux le rôle de Sophie, par exemple, on comprend le lien qui unit Ben et le patron, Samson et le patron, Ben et Justin, Justin et les autres. Donc tout ça prend un peu sens. On a aussi quelques explications sur le personnage d'Iris, qui moi personnellement me laissait fort perplexe durant la première saison. Et ça, c'est vraiment le côté très intéressant. On a aussi deux nouveaux personnages importants. Henri Scudder, je dis nouveau, même s'il apparaissait déjà un peu, mais c'est vraiment qu'à partir de la deuxième où il prend visage et où on explore son passé. Un passé qui éclaire d'ailleurs pas mal de choses sur Ben et sur les forains, etc. Et l'histoire qu'on nous raconte. Le deuxième, c'est Varlin Strode, un prisonnier qui en fait a commis son premier homicide à l'âge de 9 ans et qui est sous le charme, plutôt possédé par la voix de Justin et qui sera un peu son homme de main. On a aussi, on retrouve évidemment les forains, donc Sophie qui cherche encore un peu sa place, on a Ruth, on a Lila qui ne se remet pas vraiment des événements de la première saison, on affine les relations entre Jonesy, Libby, entre Ben et les forains aussi, parce que c'est vrai que Ben paraît un peu comme un électron libre durant la première saison, et on voit comment ça évolue. Bref, cette seconde saison répond à nos questions. Et il y a une chose qui est évidente, c'est que Carnivalé a un peu perdu le côté touffu que je n'aimais pas dans cette première saison. Même si j'avoue, en ayant vu la deuxième, il fallait bien une première saison pour poser les choses, même si elle était un peu lente. Mais je pense toujours qu'elle s'est perdue quand même de temps en temps en chemin. La deuxième saison est nettement plus efficace. Il y a encore des choses un peu gratuites, comme la rencontre avec un deuxième cirque, on ne voit pas très bien où ça nous mène.
Oui, la possibilité de rajouter des frics en plus au sein du cirque, c'était, moi je n'ai vraiment pas vu l'intérêt.
Voilà, il y aurait moyen d'avoir des développements de l'histoire sans ça. Maintenant, la deuxième saison plus efficace, ça se fait aussi au prix de certains personnages. Mais ça, ce qui est bizarre, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte en la regardant. C'est en revenant à ce que j'avais écrit sur la première saison que je me suis rendu compte que les sorcières siamoises n'étaient plus là, que l'homme lézard n'était plus là, et que d'autres personnages deviennent carrément des figurants, alors que c'était des rôles parlants dans la première saison. Est-ce bien, est-ce mal ? Je pense que l'efficacité est importante à un moment ou à un autre. Vous l'avez compris ? Je considère que Carnivalé a bien évolué. Je considère même que la seconde saison a atteint un niveau de lecture assez étonnant. En lisant des interviews de Daniel Nove, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que j'avais vraiment pas compris. Donc je pense que c'est même une série assez complexe au niveau de la qualification, au niveau des détails qui s'insèrent, qui permettent de comprendre les choses à un autre niveau. Mais aussi, en lisant ces interviews, je me suis rendu compte qu'elle avait un don de suggestion assez importante. Et Daniel Nove parle d'un passage dans le quatrième épisode où, en fait, Justin emmène sa bonne, Céleste, dans sa chambre et on voit absolument pas ce qui se passe dans la chambre, mais on entend de loin ce qui se passe et on voit le plafond. Alors il explique que c'est un procédé qui a été multi-utilisé dans l'Exorciste, où on voit rien mais où on voit la porte. Il s'est aussi inspiré de The Haunting de Robert Wise, où il y a un travelling sur un bout de bois et finalement les gens finissent, donc dans un film d'horreur, finissent par se imaginer plein de choses. Et il dit que les gens ont été très très en colère par rapport à cet épisode, où il disait « c'est horrible, cette série elle est vraiment trop explicite, je ne l'aime plus, il se passe des choses horribles », alors qu'il n'avait rien montré du tout. Et c'est vrai que ça montre que c'est un grand scénariste en tout cas, et un grand découpeur, il joue très bien sur le montage et ce genre de choses. Et j'ai l'impression que si je vous dis ça, vous allez du coup regarder cette deuxième saison un peu différemment. Alors l'équipe de production est toujours la même, à la différence que l'an dernier il était secondé par Ron Moore, qui devait lui apprendre son métier puisqu'il n'avait jamais fait de télé, et que cette année-ci, c'est peut-être aussi ce qui explique le côté un peu plus efficace, c'est qu'il est le seul maître à bord et au contrôle de sa saison. Ceci dit, j'avais dit que c'était une première saison qui se languissait à un certain moment et que c'était à mon avis dû au fait qu'ils avaient décidé en plein milieu de chemin d'en faire une série alors que c'était lancé comme une mini-série. C'est donc avec un peu d'étonnement que j'ai lu que depuis le début, ça aurait dû être une série. Daniel Nove, dans les dernières interviews, dit qu'en fait, il a toujours pensé ça comme une série en 6 saisons de 13 épisodes de 3 fois 2 cycles. Et que donc, avec les deux saisons qu'on vient d'avoir, on terminerait le premier cycle. Ce qui n'est pas du tout ce qu'il racontait il y a un an, en tout cas. Donc je trouve ça un peu bizarre. Est-ce que c'est un retournement de situation ? Est-ce que c'est pour faire plus joli ? Est-ce que c'est pour influencer les dirigeants des HBO à signer pour les 4 saisons qui restent ? J'en sais rien. En tout cas, ça n'a pas marché, puisque la série ne sera pas re-signée pour une 3e saison. Et je n'ai pas d'explication à ce propos-là. Donc je continue à dire que cette première saison était lente, mais je continue à dire que ça vaut vachement la peine aussi de regarder Carnivalé. Alors évidemment, on peut être que frustré quand on regarde le dernier épisode.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Je pense que tu es d'accord avec moi, en effet. Ça n'enlève rien à la qualité de la deuxième saison. Je pense simplement qu'on aurait pu, sachant qu'il n'y aurait pas de troisième, se dire on conclut ici et pas frustrer
les réellement finir ce premier cycle.
Voilà. Parce que là, effectivement, il se passe un truc qui fait qu'on se dit bon, même si on le sentait venir, enfin personnellement, je le sentais venir, mais voilà. Donc ça vaut la peine, appréciez et dites-vous que c'est comme Twin Peaks. Toute votre vie, vous vous demanderez ce qui peut se passer après.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.